À La Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Idriss, sociétaire à La Massif.
J'ai basculé mon assurance de prêt à La Massif. Vu la différence de prix, on n'a pas hésité et ils se sont occupés de toutes les démarches, c'était très simple.
Garantie sans prise de tête, Idriss. Avec la garantie emprunteur de La Massif, vous pouvez économiser 10 000 euros sur votre prêt immobilier. La Massif, c'est vous. Changement d'assurance sous conditions et économie selon profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Apivia Massif Mutuel, mutuelle du livre 2 du Code de la Mutualité. Conditions et mentions sur massif.fr.
Vous écoutez RMC.
Acheter un club parisien pour tenter de le mettre sur le toit de l'Europe à grands coups de millions. 30 ans avant les Qataris, cette histoire est celle du Matra Racing, monté par Jean-Luc Lagardère au début des années 80, de la renaissance de cet ancien club avec l'achat des stars de l'époque, comme Bossis ou Luis Fernandez, à la chute et la quasi-disparition. Tout est raconté dans Matra Racing, histoire d'un bide, un documentaire diffusé demain soir sur France 3 à 23h et dont le réalisateur Lionel Boisseau est dans l'after. Bonsoir Lionel.
Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir, Daniel, Stéphane et moi sommes très heureux, très excités même pour certains de te recevoir.
Vas-y Daniel. Ça remue tellement de souvenirs et j'ai mille questions parce que cette histoire elle est fascinante. Je disais tout à l'heure, c'est 1984, le football en France à ce moment-là, que ce soit en termes de supporters, que ce soit en termes de clubs forts, on est encore dans un football un peu artisanal. On sort des années stéphanoises, mais les Verts sont déjà tombés à cause de la caisse noire. Le PSG en 1984, la première fois que le PSG est passé à la télé, c'était juste 2 ans plus tôt, la finale contre Saint-Etienne, la finale de Coupe de France 82. Donc c'est dire que le PSG n'est pas très très loin d'être installé, je ne parle même pas de la France, mais ne serait-ce qu'à Paris, public, Parc des Princes,
il était souvent vide.
Autour de 15 000 à peu près. Et là, on apprend qu'il va y avoir un deuxième club à Paris. Et que Jean-Luc Lagardère, a-t-il besoin de rappeler qui est Jean-Luc Lagardère à ce moment-là? C'est un patron, on appelle ça un capitaine d'industrie, richissime, milliardaire,
qui est encore dans une époque où il réussit tout ce qu'il tente. Après, ça va se gâter, mais à cette époque-là, il est encore dans la phase ascendante. Ouais.
Et là, alors le club qui est repris, c'est le Racing. Qui a existé, hein.
Oui, qui a eu un palmarès toujours 30 ans plus tôt, quoi.
Explique. Leur Coupe de France, elle doit dater de 46, hein, ou 49.
Hein, oh, oui, c'est par là.
Ça doit être ça, le titre avant. Et donc, on reprend le Racing. Et pas le Paris FC, attention, c'est le Racing.
Non, ils fusionnent les deux, Daniel. Mm-hmm. C'est ce qu'explique dans le documentaire. Ils fusionnent le Paris FC et le Racing. Pour récupérer la place du Paris FC en deuxième division. Et pour attacher le nom du Racing, le nom mythique du Racing au projet.
Voilà. Et là, donc, on crée ce club. C'est la première fois, je crois, qu'on dit à l'époque, enfin, on le dira au final. Ah, dis donc, c'est pas avec les millions qu'on fait une bonne équipe.
Ça commence là, c'est sûr.
Mais avant de se dire ça, il y a la jeunesse du truc et tu vas nous raconter un petit peu. Et à un moment, ce qui va m'exciter le plus, et j'espère vraiment que les plus jeunes, il va falloir comprendre, c'est les noms. Quand on va égrener les noms, les entraîneurs qu'on a tenté de prendre et quels sont les mecs qui se sont lancés dans cette histoire-là, c'est fou, quoi.
Alors 32-16, si vous voulez venir témoigner, n'hésitez pas, d'ici minuit, vous aurez largement la parole. Mais déjà, Lionel, pourquoi ce doc? Pourquoi l'histoire du Matra? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, à un moment donné, tu t'es dit, je vais raconter l'histoire du Matra?
Alors, il n'y a rien de personnel, j'ai pas de famille qui est passée, qui a travaillé, ni rien. Non, moi j'aime bien le foot et depuis longtemps, je le suis depuis longtemps. Il y a un petit point de départ, c'est que je suis d'origine lyonnaise et du coup, les premiers joueurs de banlieue à être venus jouer dans des clubs, c'est Halim Ben Mabrouk et Luis Fernandez. Et du coup, Ben Mabrouk, il est vraiment de ma ville, hein, j'habitais Vénissieux,
ils sont lyonnais,
dans la banlieue, ils sont lyonnais tous les deux. Et du coup, Ben Mabrouk, c'était un peu la star de la ville et il est allé jouer à Paris parce que l'OL l'a pas repéré et du coup c'est un petit peu parti de là. Le point de départ, c'est que je me suis dit, putain, c'est bizarre, en fait on n'a jamais parlé de cette aventure, j'ai jamais vu de doc alors que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et puis l'autre parallèle évident, c'est que quand on dit ouais, les Qataris sont arrivés, ils ont investi, ils ont inventé des choses, ils ont mis de l'argent, non, en fait ça avait déjà été fait. Du coup, comme le disait Daniel et puis comme on le redit dans le film, Lagardère a mis de l'argent, a fait du marketing, a fait du naming, a fait finalement ce qu'on entend un peu dans le doc, ce qui se fait aujourd'hui, mais beaucoup trop tôt.
Mais c'est ça qui est frappant, parce que ce que je disais tout à l'heure, bon, moi j'ai 35 ans, je connaissais pas l'histoire, ce que je disais tout à l'heure avec Daniel, à part savoir que quelques grands noms de l'époque y avaient joué. Et en fait, c'est frappant en regardant ce documentaire, on se dit, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est le PSG avec 30 ans d'avance, quoi. Et c'est ça le problème, en fait, il a voulu faire ça trop tôt.
Alors après, bon, il y a plusieurs choses, peut-être Daniel peut en parler mieux que moi, des conditions économiques de l'époque, mais bon, du coup, il y a pas, les télés arrivent juste. Donc lui il arrive déjà, il met beaucoup d'argent, mais ce qui est dit dans le doc et ce qu'on comprend pour
aller Canal vivre, qui naît à la
voilà,
même époque.
Ça commence à arriver. Donc, Canal,
le championnat arriver. Le championnat est diffusé parce qu'avant le championnat n'était pas diffusé.
C'est,
télé,
ouais, c'est la même année. Début, la création de Canal et l'arrivée de la Gardère, c'est la même année.
Et attention, Canal à l'époque en 84 ne diffuse pas les 38 journées. Hein.
Non.
Ah
non,
je crois que la première fois qu'il y a les droits, c'est doit être 20 matchs. Mais je ne sais pas si, on mesure aujourd'hui à quel point on est abreuvé de football à la télé. Le championnat, toutes les semaines, on regarde notre équipe. À l'époque, 20 sur 38.
Et surtout, ce qui est amusant, parce que du coup, moi, quand je fais des docs, je vais chercher les images d'époque. Et c'est surtout les caméras. C'est-à-dire que tu as un plan large et éventuellement quelques plans serrés. Canal va amener ça, du coup, d'avoir des plans serrés, d'avoir des ralentis. Bien mais sûr. Les premiers matchs du Matra, parce que du coup, moi, je passe pas mal de temps à regarder des archives, en fait, tu reconnais à peine les joueurs. Enfin, tu vois des mecs de loin.
Voilà. Moi, c'est la première question que je voulais te poser, c'est parce que la frustration qu'on a, on a eu la chance de voir ce doc qui sera diffusé demain. Bon, c'est très intéressant pour notre génération à nous de nous replonger dans ces années-là, parce que t'as la malice et l'intelligence de lier l'époque à l'actualité foot et de revoir à la création du Minitel. Enfin bon, je vais pas refaire les. En tout cas, c'est une belle plongée dans les années 80. Par contre, il y a très peu d'images de foot finalement, parce que j'imagine que comme d'habitude, ça coûte un pognon monstre pour récupérer les images. Parce que on voit, je crois pas qu'on voit vraiment en plus Fernandez jouer avec le Batra Racing.
Alors il y a plusieurs. Mais Louis, il y va plus tard. On parle tout le temps de Louis.
Oui, il arrive en 86.
Il va 86, 87. Oui.
D'ailleurs, il arrive deux ans après. Daniel, c'est pas non plus.
Oui.
Après, ah, mais d'accord, que ce soit un transfert qui avait fait énormément parler à l'époque et tout, mais
le
mais
premier gros
ça,
transfert
déjà, démarre,
qui a fait beaucoup parler, faut l'expliquer à nos auditeurs, parce que ça c'était quand même dingue. C'est-à-dire que l'une des stars du football français, l'un des gros joueurs majeurs de l'équipe de France, Maxime Bossis, quitte le FC Nantes, club installé, pour aller jouer en deuxième division,
il menace sa place pour l'Euro qui va suivre, quoi.
Et pour la Coupe du Monde.
Ouais. Je me souviens des débats à l'époque qui disaient
on sort de l'Euro.
Bossis, qui était un des meilleurs défenseurs français, il va quitter Nantes, qui était un des clubs phares, et il va jouer là-bas. Et les débats, c'était, on va quand même pas faire l'Euro avec un défenseur qui joue en Ligue 2, en D2.
D'ailleurs, à l'époque, il n'avait pas encore joué en Ligue 2. Hein. C'est l'été d'après. Enfin, c'est l'été de son transfert.
On disait quand même. Le gars, il peut pas être en équipe de France, aller dans un club de Ligue 2.
Et d'ailleurs, comment on le disait, parce que en regardant le documentaire, je me suis dit, s'il y avait eu l'after à ces moments-là, au moment où t'as bossé, c'est effectivement un peu comme si, je sais pas, ou pas mécano, ou on peut prendre un mec un peu plus
installé. Si Benzema joue en Arabie Saoudite, on comprendrait pas.
Non, mais oui, je voulais prendre par rapport au poste. Oui, mais Benzema est plus en équipe de France. Mais oui, si t'avais.
Non, il faudrait plus.
C'est fascinant.
Griezmann.
Il faut que tu prennes un mec pour comparer qui est installé en équipe de France, donc Coupe du Monde 78.
Bah c'est là, t'apprends que Varane va jouer à
82.
C'est un vrai taulier
des Bleus.
Et ça fait la une des magazines de l'époque. 11. Vraiment, tout le monde en parle. Juste pour répondre à la question des images, bon, d'une part, il n'y en a pas beaucoup, on ne peut pas tout acheter, et puis elles sont souvent moches. Donc l'idée aussi, c'était que ce film, il fait partie d'une collection documentaire, il fallait raconter les années 80. Donc du coup, dans toutes les régions, il y en a un, par exemple, une copine qui a fait un docu sur la R5. Il y en a à Marseille sur les années 80 à Marseille. Voilà. Donc
France 3 a lancé une série de documentaires sur les années 80.
Voilà. Et donc c'était de lier cette histoire du Matra avec l'histoire de l'époque. Du coup, c'est pour ça que le Minitel. Puis alors c'est drôle parce que effectivement on oublie, mais il y avait les questions Minitel. Les gens posaient des questions sur Minitel et il y avait le journaliste Lucien Dabila, journée de Canal, qui vient et qui pose la question aux gens, la question Minitel. Donc il y a aussi une plongée dans les jeux vidéo, tu vois, il y a un moment.
Lucien Dabila, grand supporter du PSG.
Ouais.
C'était pas Matra.
Et grand ami de Luis Fernandez.
Aussi. Et du coup, c'est ça qui est amusant, c'est qu'effectivement on replonge dans une époque. Il y a les jeux vidéo. Maxime Bossis raconte
c'était pas Call of Duty là pour ceux qui nous regardent.
C'était dans le film. Il y a un jeu à moi. C'est mon premier jeu vidéo que j'ai retrouvé.
C'était
des petits jeux portables là avec genre deux boutons.
Deux boutons, oui, c'est ça.
Et on comprend que les joueurs font déjà ça, sont déjà là-dessus, voilà.
Il est 23h39, 32-16 si vous voulez réagir. Il y a Guillaume qui est déjà là, qu'on prendra dans un instant, mais n'hésitez pas. Oui, Lionel, tu vois les messages
du chat. Non, je vois la compo de l'époque.
Ouais, vas-y. Ouais, il va falloir aller vite là-dessus, parce que j'ai peur qu'on soit pris par le temps. Il faut vraiment
raconter. Francescoli, Fernandez.
Lagardère qui arrive, donc il arrive dans le foot. Il met de l'oseille et il faut dis-nous quels sont les premiers recrutements, quoi. On voit les noms.
Bah, ils montent, ils descendent. Ouais. Ils montent en première division, ils descendent tout de suite en deuxième division, ils remontent avec l'équipe de Maxime Bossis, et là, c'est l'équipe que. Là, c'est le festival, vas-y.
Bah là, du coup, c'est marrant ce que je le vois là, c'est en réaction. Donc, c'est Dietbarski qui est un des meilleurs attaquants allemands, voire même peut-être, je sais pas, à quoi, c'est Neymar, quoi.
Il est vice-champion du monde avec l'Allemagne.
Voilà. Après, il y a le recrutement le plus marquant, c'est celui de Francescoli. Oui. Francescoli est certainement le meilleur joueur sud-américain de l'époque. Et en fait, c'est assez marrant parce que il n'y a pas très longtemps, du coup, tu parlais de mémoire là tout à l'heure, et les gens ont oublié cette histoire. Il y a un truc sur lequel ça marche. Je l'ai testé la semaine dernière. Il se trouve que je continue à essayer de jouer au foot et que j'étais sur un terrain avec mon équipe qui s'appelle les Crampons Parisiens. Et on sort du terrain et on croise des gamins du Racing avec le beau maillot du Racing. Et moi, je leur dis, alors, vous connaissez le Matra? Et les gamins, ben non, on ne connaît pas. Enfin, on n'en a jamais entendu parler. Et là, je leur dis Enzo. Ah ouais, Enzo, c'est le prénom du fils de Zidane. Et pourquoi il l'a donné ce prénom, Zidane? Enzo Francescoli, parce que c'est le joueur qu'il a le plus adoré. Et du coup, là, les gamins... Ça vient, mais voilà, c'est juste pour dire que ce recrutement absolument dingue est finalement un peu passé à...
Oui, puis tu dis le recrutement emblématique aussi, c'est Luis Fernandez, qui était quand même le capitaine du Paris Saint-Germain, champion de France en 86 avec le Paris Saint-Germain, et qui juste
meilleur joueur de D1 à l'époque.
L'été d'après, passe au Racing.
Ça, c'est complètement dingue. Ça, c'est fou. Aujourd'hui, je sais pas, c'est Mbappé partirait à Marseille. Ouais. À la fin de la saison, il part à Marseille. Et du coup,
alors pas vraiment parce que en fait, pas vraiment parce qu'il y avait pas de rivalité.
Alors, c'est un peu la question.
Ça n'existait pas. On l'a un peu créé. On s'est dit bon bah tiens, ça va faire un derby, mais en fait comme le Racing a jamais évolué en face du PSG, en fait, il n'y avait pas. Moi-même, je me souviens à l'époque, bon, j'étais pour le PSG, je regardais les affiches, la fameuse affiche, j'imagine que tu as dû la ressortir. C'est le slogan pub, c'était Racing vaincra, Paris matra, c'est ça?
Oui, pas loin de ça.
Racing matra, Paris vaincra.
Ouais, c'est ça. Et moi, cette affiche de pub, même si j'ai trippé, et ado, j'avais trouvé super. Aujourd'hui, je la trouve ringarde. Mais à l'époque, j'étais là, j'ai dit, waouh, putain, mais ils vont vraiment être forts, quoi. Ils vont vraiment être super forts. Ils vont prendre tous les joueurs. C'était hyper excitant ces années-là. Ouais. Et quand ils prennent Luis, bah, je l'ai raconté mille fois à Luis ce truc-là. À chaque fois, ça me fait marrer. C'est dans l'équipe, page 2 de l'équipe, le transfert de Luis, c'était l'équivalent de 70 Renault Espace.
Pourquoi tu l'as pas, Luis? Pourquoi il témoigne pas dans ton documentaire?
Alors je l'ai appelé, oui, il a pas envie
parce
d'en parler.
Parce qu'il a honte, monsieur Luis.
Voilà,
Armandel.
Moi il m'a dit, j'ai pas il envie d'en honte. Parler. Voilà. J'aurais aimé reconstituer la doublette des Minguettes avec Mabouk et Luis Fernandez,
Mabouk est formidable, et puis Maxime Bossis aussi, qui témoigne.
Luis dit toujours quelque chose qui est vrai. Moi, il m'a souvent parlé de ça. Jean-Luc Lagardère a été une personne qui a beaucoup compté dans sa vie. Il m'a dit, ça a été vraiment un type fantastique pour moi. Et il avait un lien très très fort avec Jean-Luc Lagardère. Et il ne regrette pas cette histoire-là. Quand je dis rigolant, il a honte, en fait, pas du tout. Parce qu'il y est allé. Parce qu'il
pour l'homme. Lagardère, c'était avant Tapie, un homme qui, au-delà de capitaine des réserves, mais qui dégageait un magnétisme, qui avait une relation personnelle, qui appelait les joueurs le soir. Pascal Olmetta raconte les coups de fil de Lagardère le soir dans son lit. Quoi. C'est extraordinaire.
Ouais, on peut pas comparer les deux hommes et ce qu'ils ont fait dans la vie.
Hein. Pardon, non, mais je te parle simplement en termes de charisme et de magnétisme. Je ne te parle pas de parcours, de parcours de vie. Ouais, mais le charisme et le magnétisme, ils étaient
les gars,
identiques.
Il faut qu'on fasse une dernière pause, mais on continue de parler de ce documentaire Matra Racing, histoire d'un bide, avec Lionel Boissol, réalisateur du doc, qui passe demain soir sur France 3.